Ne crains pas, dit l'Éternel. Il pose sa main sur toi. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Tu peux avancer en lui faisant pleine confiance. Ne pense pas à demain, suis ton chemin et tu connaîtras une vie pleine et entière. Il est ton Père, il veille sur toi. Ne sois pas dans l'inquiétude, tu es sa brebis, celle qu'il a choisie. Reste attentif à sa voix. Ce matin encore, Dieu te donne ce que ton cœur désire si fort. Il te donne sa grâce et sa paix. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, en ce jour important, important pour notre Église, pour notre paroisse, important pour moi. Aurais-je pu imaginer lorsque je suis entré pour la première fois dans ce temple en 1999, qu'un jour je serai dans cette chaire. Bienvenue à vous, paroissiens de l'oratoire. Vous m'avez accueilli très chaleureusement. Je suis également heureux d'accueillir mes collègues pasteurs. Je salue tout particulièrement Denis Heller, membre du conseil régional qui, dans quelques instants, présidera à mon installation. Je salue également le père Jérôme Prigent. Nous sommes bien connus puisque Jérôme est oratorien. Et dans cette chapelle où il y a le tombeau du cardinal de Bérulle, sa présence n'est pas anodine. Bienvenue aux représentants des autorités civiles. Je vous salue, monsieur l'adjoint, au maire du premier arrondissement qui nous rejoindra plus tard. Votre présence nous rappelle que l'Église est partie prenante de la vie de la cité et qu'elle veut contribuer à tisser du lien social. Et puis, je salue celles et ceux venant d'horizons divers qui, par leur présence aujourd'hui, tiennent à m'exprimer leur sympathie, leur amitié, leur affection. Et puis enfin, j'adresse un salut tout particulier à nos amis ardéchois, non pas seulement à cause des liens de fraternité et d'amitié qui nous lient, mais aussi parce que vous appartenez à un peuple qui a donné Marie Durand, Mathieu Majal, dit Desuba, des hommes et des femmes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et sans lesquels, sans la fidélité desquels, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc une installation. Installée, comme l'écrivait André Gounel dans un petit article assez percutant, installer, c'est mettre dans une stalle. C'est, d'une certaine manière, inaugurer une vie de chanoine, peut-être un peu trop confortable. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes invités à nous mettre en route à la suite du Christ, au souffle de l'Esprit. C'est Dieu qui nous envoie tous. Alors, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à notre prière. Écoute lorsque nous t'invoquons. Car si tu ne nous entends pas, si tu te détournes de nous, où irions-nous et à qui nous adresserions-nous? Ô notre Dieu, viens maintenant nous éclairer. Ta parole est notre joie, plus agréable que toutes les richesses, que tous les honneurs et que tous les plaisirs. Seigneur, ne nous laisse pas sans la plénitude de tes dons. Répands sur nous ton amour et ta miséricorde, et qu'alors nous goûtions les merveilles de ta parole. Amen. Je vous invite à chanter dans les spontanés, le premier des spontanés que vous trouverez dans le psautier français.
«
Nous louons l'Éternel. Sans fin, Seigneur, Dieu notre Père, sans fin, nous te louerons. La terre exulte d'allégresse, béni sois-tu, Dieu des vivants. L'oiseau reçoit sa nourriture, la fleur se pare de beauté. Tu aimes toute créature, tu sais le prix de nos années. Sans fin, ton Verbe en nos paroles, sans fin, Seigneur, te chantera. Et en nos cœurs, l'amour s'éveille. Au nom du Fils, ton bien-aimé. Tu es, Seigneur, notre lumière. Heureux les hommes qui t'adorent, le monde ouvert à ton amour. L'Esprit déjà te nomme Père. Sans fin, Seigneur, nous te louerons. Et nous poursuivons notre louange en chantant au psaume 33, les strophes 1, 3 et 5, au psaume 33. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Et je promets que tous vous serez libérés de tous vos esclavages. Voici le chemin. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux qui t'asservissent. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et de toutes les idées que tu te fais de moi. Tu ne te feras pas de référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes œuvres et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir. Tu ne commettras pas de vol, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton envie de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes ambitions et de tes frustrations. Voici ce qui t'est promis et ce qui t'est demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de la maison de servitude. Amen. Seigneur, toi qui es le maître de ma vie, toi qui me libères, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, à l'esprit de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi le don de l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur, accorde-moi de voir mes fautes, et de ne pas juger mes frères et mes sœurs. Tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi parle le prophète Ésaïe. L'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, il fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Oui, frères et sœurs, Dieu ferait grâce, Dieu pardonne, qu'il nous donne la joie de servir et de vivre en sa présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Nous croyons que Dieu est présent dans nos vies. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu et dans l'inattendu. Nous croyons aussi qu'il se manifeste là où nous l'avons beaucoup attendu, mais qu'il se manifeste de manière imprévue et inattendue. Nous croyons qu'il ne se laisse enfermer dans aucune institution, dans aucune définition. Nous croyons qu'il nous relève et qu'il nous libère. Nous croyons qu'il nous donne la force d'agir et de changer le monde. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur les chemins de la vie. Nous croyons que nous marchons en sa présence. Nous croyons qu'il nous parle et qu'il nous répond dans le présent de nos existences. Nous croyons que l'Esprit insuffle sa présence dans nos fragilités et dans la beauté de nos jours. Nous croyons qu'il nous guide dans le monde que Dieu a créé pour nous, dans l'attente de la nouveauté du règne. Nous croyons que le salut est donné à tous, sans distinction. Nous croyons qu'au beau milieu de cette vie si belle et si compliquée, ce salut s'annonce comme une promesse. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque être humain une dignité irrévocable et le courage de vivre dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. J'ai retenu trois versets de l'évangile de Marc pour le culte ce matin. Au chapitre 4, les versets 26 à 29. Jésus disait encore : Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et dans le recueil Louanges et prières, nous allons chanter le cantique numéro 192, les strophes 1, 3 et 5, le cantique numéro 192. Je vous invite à vous lever. Seigneur, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mère. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous consumer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous promets et de tout ce que tu veux nous donner. Au sujet du Christ, l'auteur de l'Épître aux Colossiens affirme qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Une telle proposition, si l'on y réfléchit bien, a quelque chose de vertigineux. Un être de chair et de sang, Jésus de Nazareth, pourrait-il détenir ainsi les clés de la connaissance et les secrets de la sagesse? Pourrions-nous, grâce à lui, accéder au fond des choses? L'homme de Nazareth serait-il un de ces grands initiés, pour reprendre le titre d'un livre d'Édouard Churet, un de ces hommes qui ont pour vocation, en quelque sorte, de faire passer l'humanité de l'autre côté du miroir et de lui donner ainsi accès à un état de pleine conscience et de vérité accomplie. Au de ces grands initiés, la liste, sans être exhaustive, est longue. Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, et puis Jésus. Alors Jésus, un mystagogue, un révélateur des mystères de la vie. Toutefois, je remarque que l'enseignement du prophète galiléen se caractérise par la simplicité de son contenu et par sa tonalité ouverte, accessible à tous. En témoigne cette courte parabole, 3 versets, que j'ai emprunté au récit de Marc. Car quoi de plus simple, en effet, que cette historiette donnant à voir un homme qui jette de la semence en terre. En quoi cette scène d'une banalité absolue, du blé qui pousse tout seul, en quoi cette scène, oui, serait-elle porteuse d'un message de sagesse et de connaissance? Alors bien sûr, il convient de ne pas oublier que nous avons affaire à une parabole du royaume. Si Jésus prend ainsi le soin de nous décrire les étapes de la croissance du blé, depuis l'ensemencement jusqu'à la moisson, ce n'est pas pour le plaisir de nous donner une leçon de choses, comme le maître d'école de mon enfance qui nous faisait pousser des graines de haricots dans du coton hydrophile sur le rebord d'une fenêtre. En fait, avec la parabole du grain de sénevé qui suit immédiatement, ce passage est un des seuls de l'évangile de Marc où Jésus nous livre la conception de ce qu'il appelle le royaume. Ce royaume, ce règne de Dieu, il est au cœur de sa prédication. Le règne est tout proche. Changez de regard sur le monde. Faites confiance à la bonne nouvelle. De plus, il faut bien être conscient que cette parabole, elle s'inscrit dans le climat global de la réception de la prédication de Jésus. En effet, en lisant Marc, on s'aperçoit que les foules sont enthousiastes, séduites par le message. Jésus enseigne avec autorité. Mais, très vite, ces prises de parole suscitent des oppositions. On voit s'ébaucher un complot des pharisiens et des hérodiens qui veulent le faire périr. Sa famille, qui le prend pour un peu dérangé, veut se saisir de lui. Et les scribes l'accusent d'être un possédé. C'est donc dans ce contexte de conflit et de difficulté que Jésus est conduit à s'interroger sur l'efficacité réelle de sa parole qui est loin de subjuguer la totalité de ses interlocuteurs. Et c'est pourquoi il a recours à cette image du grain jeté en terre. Elle est quasi évidente. Il y a 3 moments, l'ensemencement, la germination, la moisson. Jésus évoque une croissance, un phénomène qui part de très peu pour atteindre l'abondance. C'est un processus qui demande du temps. Il en est ainsi de la manifestation du royaume. Ses débuts sont modestes, mais un jour viendra où il se réalisera de manière éclatante. L'enseignement de Jésus est donc fort simple. Mais là où il faut de la sagesse, c'est lorsqu'il s'agit d'identifier ce qu'on appelle la pointe, l'accent majeur de la parabole. Car enfin, dans l'Évangile, il y a beaucoup d'autres lieux où Jésus nous parle de la patience et de l'humilité. Et s'il décrit minutieusement les étapes du processus, la mise en terre, la germination, la croissance, l'apparition de l'herbe, de l'épi, puis du blé, et enfin la moisson, En revanche, il ne nous dit rien de la question du rendement et il n'évoque pas non plus la qualité du sol. En fait, chers amis, la parabole, elle nous pousse en deux directions. Nous sommes invités à fixer notre attention, d'une part, sur le semeur, et d'autre part, sur la semence. Alors, suivons l'un et l'autre au fil des trois grands moments du récit. Première étape, la mise en terre. Le grain est jeté. Il est passif. Et là, c'est l'homme qui agit. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence. La parabole met en relief l'action du paysan, du semeur qui est sorti pour semer. Voilà. La parabole, elle ne vise pas seulement à évoquer la naissance et la croissance du règne, mais elle évoque ce qui, dans son avènement, dépend de l'homme. Oui, on peut identifier l'ensemencement à la proclamation de la parole. Le semeur, c'est celui qui prêche la venue du règne. Et cette étape est indispensable. Si le semeur ne sème pas, rien ne se produira. Si l'évangile n'est pas annoncé, la cause du royaume ne progressera pas. Deuxième étape, le temps de l'enfouissement. Maintenant, l'agriculteur ne fait plus rien. Il est réduit à l'impuissance. Ce qui se passe le dépasse. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et croît d'elle-même. Toute l'action, en fait, est déportée du côté de la semence. C'est la terre qui se charge de tout. On ne sait d'ailleurs pas comment, mais ça marche. Oui, ça marche. La parabole, elle oppose la passivité du paysan au dynamisme de la croissance que l'on saisit comme un film en accéléré. Et le message est fort. Le royaume est porteur d'un dynamisme interne sur lequel le sujet humain n'a aucune prise et qui, sans intervention extérieure, parviendra à son accomplissement. Troisième étape, enfin, la moisson. Là, la balle repasse dans le champ de l'agriculteur. Il entre dans son champ, la faucille à la main. Certains commentateurs y voient une image du jugement final évoquée par le prophète Joël. Lancez la faucille car la moisson est mûre. La victoire finale de Dieu, elle se traduirait au terme de l'histoire dans un jugement et dans l'établissement du royaume. Mais si l'on suit cette piste, si c'est Dieu qui moissonne, c'est lui aussi qui aurait dû semer. Or ce n'est pas ce que suggère le début du récit qui fait de l'ensemencement une responsabilité humaine. Et comment admettre par ailleurs que pendant la période de croissance, Dieu puisse rester dans l'inaction et dans l'ignorance de ce qui se passe. Interpréter la parabole à partir de la fin et interpréter la moisson comme un jugement de Dieu, finalement fausse les perspectives et la rend incohérente. En fait, il faut repartir du début. C'est une parabole de semence. Semer, c'est annoncer la parole. Et annoncer la parole, c'est la mission de Jésus. Tout laisse à penser que l'agriculteur de la parabole, c'est Jésus lui-même accomplissant sa vocation d'évangéliste. Donc, en cet instant, en évoquant la moisson, Jésus exprime sa plus intime conviction, le règne qu'il annonce parviendra à maturité, quoi qu'il en soit. Chers amis, de cette parabole, je me plais alors à tirer trois significations ou trois horizons de sens. Première signification qui me paraît fondamentale, il faut regarder le grain. La semence germe et croît, on ne sait comment. Oui, Jésus souligne le dynamisme propre au royaume de Dieu. La vitalité, le développement du règne ne relève pas de ceux qui l'annoncent, pas plus que de ceux qui l'accueillent. Cela est de l'ordre de la grâce. C'est Dieu qui agit. Apollos a planté, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Quand on parle de l'Évangile, on n'est pas devant une entreprise dont le succès dépend des hommes. Quelque chose d'autre, un élan vital que nous sommes d'ailleurs incapables de nommer, un je ne sais quoi qui ne relève pas de nous, est à l'œuvre et nous conduit vers une plénitude de vie. Paul dit d'ailleurs aux Corinthiens, c'est à nous aussi qu'il s'adresse, qu'ils sont le champ de Dieu. Et c'est bien, de temps en temps, de se dire et de se redire que le royaume n'est pas notre propriété. Le deuxième horizon de sens que j'aimerais souligner concerne l'homme et le croyant. Oui, l'homme. Il faut quand même travailler. Il faut semer, même si les résultats sont mitigés, même si la moisson est modeste. Je l'ai dit, le royaume possède son dynamisme, mais encore faut-il qu'il soit annoncé. L'annonce conditionne radicalement l'avenir du royaume, tout comme l'ensemencement conditionne la croissance et la production, où par ailleurs on n'est pour rien. Et ce qui est demandé aux croyants, c'est d'oser une parole. Sur le reste, ils n'ont aucune prise. Et cette parabole, je le répète, souligne la responsabilité de l'homme dans l'avènement du règne. Troisième horizon de sens, relatif à la moisson. Celle-ci a lieu. L'aboutissement est assuré. Jésus, en cet instant, il nous ouvre l'horizon de la confiance. À quoi bon annoncer l'Évangile ? C'est la question même qui se pose à Jésus au moment où il se heurte aux toutes premières oppositions des religieux de son temps. Et Jésus répond, « Oui, il vaut la peine de s'engager parce que l'issue finale ne fait aucun doute. Le temps de la moisson viendra parce qu'il y a une force de croissance inhérente au règne annoncé. Et ce qui vaut pour le temps de Jésus vaut aussi pour le temps de l'Église. Notre temps, il est bien évidemment traversé de tensions, d'ambiguïtés, de conflits. Il y a souvent un décalage entre nos espoirs, nos attentes et la réalité du monde et de l'Église. Notre foi, elle est mise au défi, mais nous croyons qu'une énergie, celle de l'amour de Dieu, traverse notre monde et le conduit vers un accomplissement final. Bien sûr, l'Évangile peut se heurté à l'indifférence ou à l'opposition, il n'en reste pas moins que, portés par le dynamisme de Dieu, les croyants, dans leur responsabilité de témoins, vivent d'un souffle d'espoir qui les entraîne comme une force qui va. Chers frères et sœurs, en fin de compte, ces trois significations nous renvoient à ce qui est constitutif de l'existence chrétienne. Nous sommes invités à reconnaître le dynamisme créateur de Dieu. C'est la foi. Avoir la foi, c'est comme voir ce qui est invisible, ce qui échappe à l'évidence. C'est dépouiller le monde de ses masques et reconnaître en toute chose les marques d'un Dieu qui pourtant se cache. Croire, c'est parier sur Dieu alors que les autres nous demandent « Où est-il ?» ton Dieu. La foi, elle est là pour soutenir la marche et par le Christ, elle raconte ce qu'est une vie vraiment humaine. Elle offre même un repos auprès du bon pasteur, du seul maître qui se fait serviteur. La foi donc, mais nous sommes également sollicités de croire en la victoire finale de Dieu et ça, c'est l'espérance. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, comme l'écrivait Peggy, mais à dire vrai, c'est elle qui entraîne tout le monde. Et l'espérance, c'est un risque. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est comme une ancre. Jeter l'ancre, ça permet d'accrocher le bateau, ça l'empêche de dériver, même si le mouillage reste une opération délicate. Et si les chrétiens ont repris cette image, c'est qu'ils avaient conscience que l'espérance nous arrime aux rivages de Dieu, ces rivages qui peuvent nous paraître parfois tellement lointains et tellement inaccessibles. Et puis enfin, nous avons à mettre en œuvre notre responsabilité de chrétien par nos paroles, par nos actes, et il s'agit bien de cet amour dont Paul nous dit qu'il ne fanfaronne pas, qu'il retrousse ses manches et qu'il rend service. Bref, ce à quoi nous invite cette parabole de la semence jetée en terre, c'est finalement à croire, à espérer et à aimer. Oui, la foi, l'espérance et l'amour nous font tendre vers autrui et vers Dieu. Elles nous mettent aussi en relation avec nous-mêmes de manière renouvelée. Elles constituent ce que l'apôtre Paul désignait comme un chemin infiniment supérieur à toute autre chose. Croire, espérer, aimer, c'est le plus beau et le plus fondamental de tous les projets de vie. Croire, espérer, aimer, c'est vivre en Christ, rien d'autre. En Christ, oui, en lui. Il se pourrait bien alors que soient cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 222, « Que la moisson du monde est grande ». le cantique numéro 222. Je vous invite à vous lever.
Chers amis, comme prévu, comme annoncé, nous avons maintenant la joie d'installer Richard Cadou comme pasteur de l'église de l'Oratoire. J'imagine, et il en parlait tout à l'heure, que vous lui avez déjà fait place, que vous lui avez fait déjà bon accueil, ainsi qu'à son épouse Claude. Mais aujourd'hui, nous le faisons de manière liturgique, devant Dieu, dans la prière et dans la reconnaissance. Richard, je ne vais pas relater en détail ici le long parcours qui t'a conduit à l'exercice du ministère pastoral à l'Oratoire. La plupart d'entre nous, je pense, savent que tu as été prêtre catholique en recevant une formation théologique à l'Institut catholique de Lyon, puis à celui de Paris. Tu as exercé des responsabilités importantes dans l'Église catholique romaine, connaissant entre autres, je cite quelques engagements que tu as eus, la vie monastique, le ministère paroissial, la charge d'enseignant. Dans ton cheminement spirituel et théologique, avec toujours ce même souci de vivre et d'annoncer l'Évangile, tu t'es tourné vers le protestantisme. Après un temps d'études à l'Institut protestant de théologie, tu as été envoyé dès juillet 2012, et je me tourne vers nos amis d'Ardèche, au service de l'église locale de Vernoux-Chalancon. En Ardèche, en plein terroir protestant, toi qui venais du catholicisme. Le 22 juin 2014, tu as été reconnu comme pasteur de l'Église protestante unie de France. Tu as été nommé au 1er juillet 2017 au poste de Paris Oratoire. Ta nomination a été confirmée et par le Conseil régional et par le Conseil national. Dans notre prière de ce matin, nous associons en même temps que nous allons t'installer, nous associons à ton ministère celles et ceux qui parmi nous exercent aussi un ministère. Je pense bien sûr à ton collègue, que je connais bien, cela nous rappelle quelques souvenirs, Marc Pernaud. Ensemble, vous serez appelés à faire équipe dans la confiance et la complémentarité. Je pense aussi au ministère collégial du Conseil presbytéral, mais aussi à tous les ministères locaux exercés dans cette paroisse, tels que catéchètes, visiteurs, animateurs, organistes et bien d'autres que je ne vais pas citer ce matin devant vous. Pour avancer dans cette liturgie, nous nous tournons vers le Seigneur pour le louer, nous prions. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout humain avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes et les femmes de ce monde, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Amen. Et j'invite maintenant Richard à se placer devant l'Assemblée. Oui, Richard, mon frère, conformément aux engagements que tu as pris lors de la reconnaissance de ton ministère, veux-tu, dans le nouveau poste que tu occupes désormais, te consacrer pleinement à la tâche qui t'est confiée aujourd'hui, en collaboration avec tous ceux qui sont déjà au travail dans cette Église? Et qu'il soit ton aide et ta force. Frères et sœurs, Richard vient de renouveler ses engagements devant vous. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour notre frère, nous le soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous levant. J'invite maintenant à s'approcher celles et ceux qui vont imposer les mains, et à l'appel de leur nom, je leur demanderai de venir entourer Richard. J'appelle André Ducrot en tant que président du Conseil presbytéral, le pasteur Marc Pernaud, pasteur de l'Oratoire, Gilles Deveau en tant que président de l'Entraide, Daniel Barral, venu de l'Ardèche, trésorier de l'Église protestante de Vernoux-Chalancon, Nicole Aymard, bénévole au secrétariat, Francine Bronstein, conseillère presbytérale, trésorière de cette Église, Laurence Tardy, conseillère presbytérale en charge, entre autres, des journées du patrimoine. Et enfin, Florence Taubman, pasteur de notre église, envoyée au DEFAB, service protestant de mission, et comme beaucoup le savent, ancienne pasteur de l'oratoire. Nous prions le Seigneur, je demande à l'Assemblée d'entrer dans la prière et aux personnes appelées d'avoir ce beau geste de la bénédiction pour invoquer l'aide de Dieu sur Richard pour son ministère. Nous t'en prions, Dieu notre Père, veuille par ton Saint-Esprit fortifier notre sœur, notre frère, et tous les sœurs et frères, mais aussi surtout Richard, afin qu'il exerce fidèlement la charge qui lui est confiée. Renouvelle ses forces, son zèle pour le ministère, sa force et aussi son élan pour annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume qui vient. Renouvelle aussi dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour cette assemblée et tous ceux qui travailleront avec lui à ta gloire et au service des hommes et des femmes de ce monde, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne. Et toi, Richard, tu n'es pas seul. Réjouis-toi d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et pour poursuivre ce temps de liturgie d'installation, je vous invite à chanter au numéro 338, numéro 338, les strophes 1 et 2, « Ô Jésus, tu nous appelles ».
Quelques annonces. D'abord, merci à tous d'avoir répondu si nombreux à ce culte et d'être présents pour entourer Richard. Merci Richard de ta prédication. La puissance des idées que tu as développées ce matin devant nous vont nous permettre d'avancer un peu plus sur le chemin qui nous rendra plus humains. Et à nouveau, bienvenue au nom de toute la communauté du Conseil presbytéral dans l'église de l'Oratoire du Louvre, qui est maintenant l'église où tu vas exercer ton ministère conjointement avec Marc Pernaud, et je formule le vœu, avec le Conseil presbytéral et toute l'Assemblée, que vous formiez un binôme uni, solide et fraternel, et qu'ensemble, avec le Conseil presbytéral, nous œuvrions tous pour le bien de cette paroisse. Merci à tous ceux qui ont répondu présents aujourd'hui et aux pasteurs. Et permettez-moi, et je suis sûr que vous partagerez la joie non dissimulée de retrouver particulièrement le pasteur Florence Tobman et le pasteur Werner Burki, côte à côte, qui étaient là, ici, dans cette église, il y a encore quelques années. Et aux amis de Vernou, leur redire aussi qu'ils seront toujours, toujours les bienvenus ici, à l'oratoire. À l'issue du culte, vous aurez un temps, il y aura un temps du verre de l'amitié qui sera partagé autour d'un buffet qui a été préparé ce matin. Et merci à tous les bénévoles qui, ce matin, ont préparé de bonne heure ce pot d'accueil. Merci à David Cassan d'avoir accompagné nos chants et à nos sacristains, Gérard et Twimeux Delin, qui ont veillé sur tout. Quelques annonces rapides. Tout d'abord, jeudi prochain, 28 septembre, le chœur de l'oratoire va répéter avec son maître de chapelle, Fabien Aubé, à partir de 19h30 dans la maison presbytérale, juste en face. Si vous voulez rejoindre le chœur, il faut venir un petit peu avant 19h30, comme ça vous pourrez rencontrer le chef et être surtout auditionné par lui. Dimanche 1er octobre, le culte sera présidé par le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, avec présence du chœur de l'oratoire, sous la direction de Fabien. Et si vous avez envie de chanter avec le chœur, il vous faut venir un petit peu plus tôt, à partir de 9h30, pour répéter psaumes et cantiques qui seront chantés lors de ce culte. Ce sera le premier repas paroissial de rentrée. Donc soyez assez gentils de vous inscrire soit au stand de librairie, soit de passer un petit coup de fil au secrétariat durant la semaine pour vous inscrire. Attention, dimanche prochain sera une journée sans voiture dans Paris. Donc je ne sais pas si l'arrondissement est concerné, mais ce sera peut-être un peu difficile. Trois rendez-vous quand même pour le mois d'octobre que je souhaitais signaler ce matin. Lundi 9 octobre. À 20h, Salmono, il y aura de nouvelles séries de rencontres intitulées « Philosophie et théologie », Salmono à 20h. Ce sont des rencontres, conférences et débats organisés et animés à tour de rôle par le pasteur Marc Pernaud, Philippe Godin, Denis Guénoun et Olivier Abel. Ces conférences font bien sûr le lien entre philosophie et théologie. Le thème général de ces conférences, c'est la religion d'un philosophe ou la philosophie d'un théologien. Et le thème de la conférence de lundi 9 octobre sera Pierre Bayle, vous savez, qui était protestant, qui est devenu catholique, qui est redevenu protestant, par Olivier Abel. Mardi 10 octobre, conférence-concert, c'est une nouveauté. Cette fois-ci, ça aura lieu à 20h, mais dans le temple. Et elle sera, c'est une conférence qui est animée par Philippe Bronstein, qui est historien et qui est un paroissien bien connu ici. Le thème, c'est la réforme à Paris 1520-1560. Et vous avez une illustration de cette conférence, si j'ose dire, dans la petite chapelle à droite en sortant. Ne manquez pas cette exposition, elle est très belle et elle vous racontera un petit peu déjà le thème de cette conférence. Elle sera entrecoupée de moments musicaux qui ont été préparés par Aurélien Peter, Stanislas Siviorek et Fabien Aubé. Donc, le 10 octobre, conférence, concert, ici, à 20h. Et enfin, dernier rendez-vous, le mardi 24 octobre, à 20h, alors c'est de nouveau Salmono, cette fois-ci, reprise des soirées du mardi, Société en débat, animée par le pasteur Jean-Pierre Rive. Et le thème qui sera abordé au cours de cette conférence est tout à fait d'actualité, il est même d'une actualité brûlante. Retour de Corée du Nord, extrémisme séculier et religiosité. Donc, le conférencier sera M. Olivier Faure. Vous voyez, c'est une conférence qui sera tout à fait d'actualité. Je crois, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Et c'est maintenant, je vais laisser la place au diacre pour le temps de l'offrande.
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations et de nos soucis. Nous aimerions être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon et recevoir la paix que tu donnes. Nous nous présentons devant toi en formulant cette demande. Nous te confions aussi ceux que nous connaissons, ceux qui sont inquiets, agités, révoltés. Comme nous te confions ceux qui sont fraternels, détendus, équilibrés. Nous te présentons la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, tous ceux qui sont fatigués, lassés, qui n'en peuvent plus de porter le poids de leur vie. Nous te le demandons maintenant, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Oui, donne-nous ta paix. Et fais de ton Église, fais de notre Église, la communauté où l'on reçoit et où on donne cette paix, où on peut se faire confiance et s'entraider. Merci, ô notre Père, pour la confiance, pour l'amour que tu as eu pour tes disciples. Merci de la patience et de l'amour que tu as pour notre monde. Et c'est sur cet horizon de confiance que nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse votre regard, qu'il soit clair comme la pleine lune. Que le Seigneur bénisse vos pensées les plus secrètes, qu'elles soient pures et fraîches comme la glace sur les lacs. Que le Seigneur bénisse votre travail, qu'il soit fécond comme le maïs dressé dans les champs. Que le Seigneur bénisse votre repos, qu'il soit temps de réflexion et de méditation. Que le Seigneur bénisse vos familles, qu'elles soient joyeuses comme les loutres au bord du ruisseau et actives comme les abeilles dans la prairie. Que le Seigneur bénisse votre temps, qu'il coule comme la rivière après la débâcle. Que le Seigneur bénisse vos larmes, qu'elles soient douces comme celles de l'érable au retour du printemps. Que le Seigneur bénisse votre vie de chaque jour, qu'elle soit à jamais entre ses mains généreuses. Que la pluie de bénédiction du Seigneur descende sur vous tous et vous comble de sa rosée. Elle fera fleurir des fleurs de joie et de paix, d'amour et d'espérance en vous, autour de vous. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.